Je vous propose aujourd'hui de redécouvrir le Profession philosophe enregistré avec Isabelle Stengers en janvier dernier, de la science à la sorcellerie.
Être philosophe, est-ce un métier? Comment l'apprendre? Comment le transmettre? Comment se fabriquent les idées? Et quel est le rôle du philosophe dans la cité? Mon invitée aujourd'hui a été formée par le prix Nobel de chimie Ilia Prigogine, avec qui elle a écrit son premier livre, La Nouvelle Alliance, paru en 1979, qui fut traduit dans le monde entier et qui tente de repenser la conception que l'on se fait de la science et de son rôle dans la société. 41 ans plus tard, elle a écrit autant de livres que d'années écoulées, elle a enseigné à l'Université libre de Bruxelles et semble avoir profondément marqué les philosophes qui l'ont rencontrée. Voici le témoignage de Bruno Latour et de Vinciane Després.
Le maître que j'ai appris d'Isabelle Stengers, Isabelle Stengers qui est mon maître en philosophie plus que tous les autres, c'est Whitehead. Et beaucoup des gens dont j'ai beaucoup apprécié le travail, je les ai connus par Isabelle. C'est elle qui m'a fait connaître Toby Nathan. J'ai passé 2 ans dans le séminaire de Toby Nathan que je n'aurais jamais osé approcher sans le truchement d'Isabelle Stengers. Une école belge de philosophie qui repose largement sur elle. Maître, c'est la personne dont on craint le fouet. La seule personne dont je peux dire que je peux sortir en larmes d'une discussion sur un de mes textes, c'est Isabelle Stengers, disons. Donc, je pense qu'elle mérite cet admirable titre de maître.
Donc. Alors, Deleuze, j'avais lu Mille plateaux. La question territoriale est centrale dans le chapitre La Ritournelle. Et je comprenais rien. Et heureusement, Isabelle Stengers ne m'a pas lâché sur ce coup-là. Elle ne m'a pas lâché en disant, mais tu sais ce que tu... Plus avancé...
C'est votre collègue, Isabelle Stengers?
Alors, elle n'est pas ma collègue. Enfin, elle est collègue, parce que nous sommes collègues comme philosophes, parce que nous sommes belges, mais elle travaille à l'Université libre de Bruxelles, mais nous sommes avant tout amis et presque sœurs. Je veux dire, sans elle, je ne suis pas sûre que je serais restée en philosophie. Et en plus, elle m'a donné des entrées dans la philosophie, qui étaient des entrées où enfin on pouvait sentir bien, où on pouvait être joyeux. Voilà, des entrées joyeuses en philosophie.
Bonjour Isabelle Stengers.
Bonjour.
Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Aviez-vous conscience d'être considérée comme un maître par Bruno Latour et comme une sœur par Vinciane Després?
Par Vinciane, une sœur, c'est réciproque. Ce qui n'est pas le cas avec quelqu'un qui me traite de maître. Oui, avec Vinciane, je sais que je l'ai rencontrée. Elle était plus jeune que moi et beaucoup plus débutante que moi. Je sais que je peux dire je lui ai tendu la main, mais parce que cette main-là, j'avais envie de la prendre et de l'aider à continuer. Et depuis, elle est devenue mon égale. Et c'est un plaisir et une joie de tous les jours, oui. Bruno, il cache bien son jeu, parce que peut-être qu'il a pleuré, mais pendant qu'on discute, parfois chaudement, il se défend bien.
Enfin, il craint le fouet de votre part.
Oui, peut-être, mais il ne montre pas la douleur. Non, Bruno est quelqu'un qui réfléchit à son rythme, et parfois, je ne suis pas d'accord, je trouve que là, il s'est arrêté trop tôt ou quelque chose comme ça, et je le lui dis. Mais quand il fait mouvement, à sa manière, à la manière qu'il a produite, il répond à ce que je critiquais, je me dis, j'ai bien fait d'attendre. Parce que c'est que on critique sur un point et on a un feu d'artifice de nouveauté. Donc... Dire que je suis son maître, je veux dire, je suis alors maître heureuse parce que j'ai celui dont je suis le maître répond 1000 fois à une attente.
Joyeuse, en tout cas, c'est ce que disait Vinciane Després en caractérisant votre philosophie. Est-ce que vous savez comment vous avez produit cette relation-là, être considéré comme un maître? Alors, au-delà de Bruno Latour, cette influence que vous avez eue sur les gens avec qui vous avez travaillé?
J'aime être passeuse. J'essaye de passer non pas des ce qu'il faut penser. Valéry Kahn, tout de même, si tu parles de ça. Non, j'essaye de passer des idées, des textes, des modes d'approche qui m'ont rendue vivante. Avec l'espoir que cette capacité de rendre vivant peut jouer sur la personne. Mais même avec les étudiants, c'est ça. C'est pour moi, la philosophie, ça doit être un exercice, ça peut être une joie douloureuse, enfin, c'est pas des idées joyeuses, par définition, mais ça doit mettre la pensée en vie. Si je lis quelque chose qui m'ennuie, je ne dis pas c'est mauvais, je dis peut-être que je trouverai mon chemin plus tard. Mais pour le moment, je travaille pas ça. Ça ne me met pas en appétit de penser.
On va passer 50 minutes ensemble, Isabelle Stenger, 50 minutes au cours desquelles on va remonter à l'origine de votre rencontre avec la philosophie, découvrir vos sources d'inspiration philosophique et extra-philosophique, pénétrer dans votre atelier de fabricant de concepts ou dans votre laboratoire et réfléchir avec vous au rôle politique de la philosophe que vous êtes. Mais avant cela, s'il fallait énoncer un concept autour duquel s'articule votre travail, ce serait celui, sans doute celui de science, mais c'est incomplet. Est-ce que vous arriveriez à identifier à l'aide d'un seul terme ce autour du quoi votre travail s'articule?
C'est pas un beau mot, je crois, mais à partir de mon intérêt pour la science et avant tout pour la physique, c'est vrai que j'ai essayé, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'économie pour comprendre à la fois ce que la physique était et surtout ce qu'elle n'était pas. Et ce qu'elle ne devait pas essayer d'être, parce que c'était pas là sa force. Donc j'ai essayé d'élargir à la question de la production des savoirs, sachant que, contrairement à la science, qui est pour tout le monde, et avant tout la science moderne, les savoirs sont, comment dirais-je, une catégorie transversale. À la limite, on peut même parler de savoir animal. Il y aura chaque fois des différences, mais la manière de traiter ces différences et surtout pas de hiérarchiser en mettant les sciences modernes au sommet et en décrivant les autres comme manquant de ce que la science moderne a, c'est ça que j'évite pour moi, c'est vrai. Penser, c'est aussi penser à partir des pièges dans lesquels on pourrait tomber si on fait pas attention. Et ne pas créer de hiérarchie entre les savoirs, mais tenter de les décrire chacun dans sa positivité et sa force, je dirais que c'est ce qui me permet d'éviter les pièges d'une hiérarchie qu'on trouve partout.
Donc ce serait la transversalité, en fait.
Réussir la transversalité sans un relativisme plat, tous les savoirs se valent. Non! Au contraire, aucun savoir n'est tout à fait comme les autres.
Alors, quelle place tient la philosophie dans cette non-hiérarchie des savoirs? Déjà, est-ce que vous arrivez à la définir? Qu'est-ce que c'est la philosophie?
C'est très difficile de la définir parce que qu'est-ce que la philosophie est une question que les philosophes ne cessent de se poser. Moi, j'ai pas découvert la philosophie avec une définition de la philosophie. En fait, j'ignorais à peu près tout de la philosophie quand j'ai choisi de terminer mes études de chimie en commençant des études de philosophie.
Voilà, vous avez commencé par la chimie.
J'ai commencé par la chimie, mais pour des raisons que les chimistes ne reconnaîtraient pas, parce que, fille d'historien, je voulais aller quelque part où je n'étais pas déjà chez moi. Je voulais rencontrer l'étranger. Il n'y a pas de scientifique dans ma famille. Sauf que cet étranger m'a intéressée, mais ne m'a pas nourrie comme je sentais que je voulais être nourrie. Donc, j'ai switché vers la philosophie en me disant, là, je l'ai d'abord associé à une liberté de poser les questions qu'on sent devoir et pouvoir poser. Donc, c'était vraiment les questions pour aujourd'hui. Je ne me suis pas inscrit dans un continuum de philosophie pérenne, mais quelles sont les questions que je veux apprendre à poser? Je me suis dit, c'est en philosophie que je les apprendrai, pas en science. Parce qu'en science, les questions sont déterminées par l'état du savoir au moment où on se met au travail. Donc, j'avais pas de définition de la philosophie et je n'en attendais même pas grand chose d'autre que de pouvoir poser
des questions.
Non pas mes questions, comme si je les connaissais déjà, mais chercher mes questions.
Et est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec la philosophie? Votre premier contact?
Disons que j'avais lu des philosophes, comme toute étudiante en philosophie, mais c'est juste après que j'ai terminé mes études de philosophie, que je sois devenue diplômée, que j'ai lu Différence et répétition de Deleuze, sur le conseil d'ailleurs d'un de mes enseignants en philosophie. Il m'a dit, tu devrais lire ça. Et ça l'énervait que je me définisse comme, je suis un peu touriste. Enfin, je ne me définissais pas comme philosophe, je me définissais comme venant voir. Il m'a dit, lis ça. Et je l'ai lu, et ça a été, je m'en souviendrai toujours, ça a été, si on peut poser des questions qui vous font penser comme ça, c'est-à-dire penser à travers tout, entre ce qu'on considérait de plus privé et ce qui semble plus abstrait, si on peut faire ça, alors oui. Et c'est ce que je lui ai écrit d'ailleurs, ok, t'as gagné, je suis philosophe.
C'est vrai que nous entrons dans une société qu'on peut appeler une société de contrôle. Vous savez, un penseur comme Michel Foucault, avait analysé deux types de sociétés assez rapprochées de nous. Les unes qu'il appelait des sociétés de souveraineté, et puis les autres qu'il appelait des sociétés disciplinaires. La société disciplinaire, elle se définissait par la constitution de milieux d'enfermement. Prison, école, atelier, hôpital.
C'était la voix de Gilles Deleuze le 17 mars 1987 au mardi de la Fondation. Les propos qu'il tient lors de cette conférence d'ailleurs ne sont pas sans rapport avec votre travail, Isabelle Stengers.
Oui, mais c'est d'abord en rapport avec ma vie puisque là, j'avais pas lu différentes répétitions, mais j'avais entendu Deleuze parler de Foucault et des prisons. Et ça m'avait...
À la radio?
À la radio, radio belge. Et ma mère est... enseignante, j'habitais encore chez mes parents, quand je suis descendue, je l'ai trouvée. Moi, je suis descendue rayonnante, j'avais entendu quelque chose de super intéressant, et ma mère, elle bouillonnait d'indignation. Bon, mais sinon...
Elle était choquée par ce qu'elle venait d'entendre?
Ben, qu'on puisse rapprocher l'école de la prison. Moi, je suis beaucoup plus d'accord avec Deleuze, quoi, que j'ai essayé de pas faire court sur un mode disciplinaire, mais je suis pas très disciplinaire, ni disciplinée d'ailleurs. Je crois que Foucault et Deleuze fabriquent une manière de penser dont on a terriblement besoin aujourd'hui. L'une des choses qui m'a le plus intéressée par rapport à nos sociétés, c'est cette idée de penser par le milieu. Quelles sont les pensées, les propositions qui vont sans dire, qu'on accepte? Si par exemple j'entends un scientifique qui parle du public, des gens, comme ne pouvant rien comprendre aux sciences, donc comme devant être tenu à distance des sciences, ma question sera peut-être de voir les arguments que je pourrais lui opposer, mais la première question c'est, il dit ça avec impunité, il dit ça tranquillement, il ne redoute rien. Quel est le milieu qui lui permet de dire ça comme si c'était normal? Donc, penser par le milieu, c'est écouter tout à coup ce que quelqu'un dit et dire dans quel milieu peut-on dire ça sans craindre la réponse?
Oui, c'est pas le milieu comme centre, c'est le milieu comme environnement.
Par le milieu qui permet, qui encourage, qui admet, qui anticipe. Par exemple, par rapport à Prigogine, par exemple, j'étais tout le temps en train d'essayer de...
Donc le prix Nobel de chimie qui vous a formé?
Oui. Et avec qui j'ai appris la philosophie, mais à faire de la philosophie, pas faire de la philosophie prigogénienne. J'ai appris ce que ça pouvait être de la philosophie en contact avec un scientifique. Il savait que je détestais le fait qu'il confonde les questions qu'il pensait en tant que physicien et les questions que tout humain se poserait. Et parfois, il donnait une conférence et à la sortie de la conférence, il me voyait, il me disait... Oui, Isabelle, je sais que j'aurais pas dû dire que la flèche du temps intéressait tout le monde, mais les gens en avaient tellement envie. Donc, voilà, les gens peuvent demander aux scientifiques de faire preuve d'autorité.
On l'écoute, il y a Prigogine.
La science est devenue un phénomène très vaste et ne peut vivre dans l'isolement. Et ne peut vivre en étant séparée de la société dans son ensemble.
Vos yeux se sont allumés lorsque vous avez entendu sa voix.
Ah ben oui, sa voix. Je l'ai d'ailleurs imité sans même y penser juste avant. Il avait un accent russe qui lui restait, alors qu'il parlait parfaitement le français, évidemment. Mais effectivement, ça a été quelqu'un de très important pour moi.
Et donc c'est avec lui que vous avez écrit votre premier ouuvrage, La Nouvelle Alliance,
oui.
En 1979.
Oui. Juste après qu'il ait eu son prix Nobel. J'avais écrit déjà quelques articles avec lui et j'ai écrit La Nouvelle Alliance.
Et cette Nouvelle Alliance, c'est celle entre les lois scientifiques et les lois de l'homme?
La Nouvelle Alliance, c'est entre les savoirs scientifiques. Ben, je dirais, c'est déjà entre les savoirs scientifiques et toutes sortes d'autres savoirs. Et surtout, entre la physique et des tas d'autres savoirs scientifiques ou non que longtemps la physique a renvoyé à l'illusion. Donc, en fait, le terme Nouvelle Alliance, il est venu un peu par hasard d'un article que j'avais écrit avec lui sur Jacques Monod qui disait « L'ancienne alliance est morte ». Eh bien, comme on voulait dire que la physique pouvait dire autre chose que ce qui autorisait Monod à dire ça, on l'a appelé la Nouvelle Alliance. Et puis, il a aimé ce titre. Et quand je me suis demandé... comment est-ce que je peux accepter la nouvelle alliance? Je résistais. Finalement, j'ai pensé à l'une des alliances bibliques, c'est-à-dire Dieu, après le déluge, décide qu'il recommencera plus. Quoi que fasse l'homme, il ne noiera plus sa création. Et donc le physicien qui dit « Ok, j'ai lissé les différences, j'ai renvoyé tout à des lois monotones, eh bien je ne le ferai plus. Même si j'ai la tentation, je m'engage à respecter la positivité des autres savoirs et pas de les réduire à des avatars des lois physiques. »
Donc ben, c'est ça, contre oui. l'hégémonie de la physique, l'auto-institution de la physique en tant que discipline reine, en fait, que ce livre a
été
écrit.
En tant que discipline reine et qui donne un espèce de modèle que d'autres sciences et même des philosophes identifient à une rationalité.
Mais ça, c'est un peu le cas dans toutes les disciplines. Les économistes pensent qu'il était la vérité, souvent les philosophes aussi. D'ailleurs, il y a toujours un aspect très normatif dans chaque discipline.
Oui, mais même chez les économistes, quand ils parlent de système économique, ben, les lois qu'ils emploient sont directement inspirées de la physique. C'est vraiment pas le plus beau de l'histoire, d'ailleurs. Mais enfin, il y a dans l'idée de causalité, de détermination, de système, de loi, qui sont des thèmes qui circulent dans beaucoup de sciences, l'influence directe de la physique. Ressembler à la physique, c'est très important.
Donc vous-même reconnaissez la préséance de la physique, mais vous avez en même temps de la diminuer.
Bah, il y a préséance historique, ça c'est certain, puisque ce qu'on appelle la révolution galiléenne ou newtonienne, etc., est-ce à partir de quoi on s'est mis à parler de, enfin on peut parler de science moderne, mais quelle est préséance conceptuelle? Ça, non. Au contraire, ce qui m'intéresse, c'est les contrastes entre pratiques scientifiques. Poser une question en essayant de ressembler à la physique, que ce soit en psychologie ou en biologie ou en sociologie, je ne parle même pas d'économie, c'est faire de la mauvaise science.
Et comment vous expliquez le succès qu'a rencontré cet ouvrage, traduit dans des dizaines et des dizaines de langues?
Je crois qu'il est venu au moment où on a commencé à l'écrire. En fait, il y avait très peu d'ouvrages, on pourrait dire, de mise en question culturelle des sciences. Je me souviens, c'était un peu le désert. Et je crois que ça a été un des premiers ouvrages à soulever ce type de question-là, à utiliser l'histoire des sciences sur un mode où ça devenait une vraie histoire et avec une vraie proposition et pas de la vulgarisation, disons pas « il faut savoir ». Je crois que c'est ça. Et puis, en France, il y a eu un article de Michel Serres qui a lancé le mouvement. Je crois qu'il disait que le XXe siècle a déjà commencé dans le monde. Et c'est là que les ventes ont explosé.
Michel Serres qui vous a remis le Grand Prix de philosophie de l'Académie française pour oui. l'ensemble de votre œuvre en 1993. Encore une question sur ce livre et même sur le rôle qu'occupe la science dans votre esprit et dans la société. Est-ce qu'on peut critiquer une certaine conception de la science sans fragiliser la raison? Parce que la limite est très, très fine souvent. Est-ce qu'on peut dire la physique n'est pas le modèle absolu sans prendre le risque de sombrer dans la misologie, dans la haine de la raison et laisser entendre oui. que c'est cela votre propos?
Il faudrait d'abord identifier la physique ou la science à la raison. D'abord, je refuse très souvent. Dès qu'on a dit la science, on est en train de fabriquer une identité qui recouvre des sciences multiples et dont moi je tends à espérer et à travailler pour qu'elles prennent leur singularité. L'anthropologie, c'est très différent de la physique, par exemple. Donc, primo, je dirais les pratiques scientifiques, leur rapport à la raison sont multiples et la raison elle-même, ça dépend de quoi on parle. Là, on entre en philosophie. Si j'ai aimé Whitehead comme philosophe, c'est que pour lui, la raison, c'est une aventure. C'est pas une norme auquel il faudrait se soumettre sous peine d'irrationalité. Et s'il y a irrationalité, c'est de vouloir soumettre violemment un problème auquel on a affaire à une norme. Non, il faut se porter à la hauteur de ce que demande ce problème. Pour moi, la raison, c'est essayer d'être digne du problème qu'on pose. Elle est fragile. On peut sans cesse être inférieur au problème qu'on pose. Mais il n'y a pas quelque chose qui pourrait la fragiliser de l'extérieur.
Whitehead, on le retrouve dans votre dernier livre, Réactiver le sens commun, qu'on trouve aux empêcheurs de penser en rond. Lecture de Whitehead en temps de débâcle, mais en fait, il vous a accompagné toute votre carrière. C'est après Deleuze, c'est finalement, c'est alors Whitehead, Alfred North Whitehead, que vous découvrez, qui qualifie la raison d'aventure, qui va vous accompagner. Est-ce que vous pouvez nous le présenter rapidement?
C'était un mathématicien, mort en 47, qui, sa retraite prise à l'université anglaise, est passée donc à Boston, à Harvard, et est devenu philosophe. Et il a dit d'ailleurs que le premier cours de philosophie qu'il a entendu, ben c'est lui qui le donnait. Donc c'est, on pourrait dire c'est un self-made man, mais il avait cette culture qu'on avait au 19e siècle. Je crois qu'il connaissait la critique de la raison pure presque par cœur. Et il avait étudié les débats théologiques. Enfin, il avait énormément de culture, mais ça ne veut pas dire qu'il était philosophe. Ce qui m'a intéressé, c'est la manière dont il est devenu philosophe. Et on pourrait dire un des grands métaphysiciens du XXe siècle. C'est-à-dire comment, justement, il a donné à la raison le pouvoir de le mettre à l'aventure. Le grand mot de Whitehead, c'est cohérence. Tous nos savoirs sont incohérents. Comment puis-je dire que le monde est déterminé et que je suis libre sans faire tout à coup deux essences? Pourquoi deux? Qu'est-ce que c'est? C'est incohérent. Avoir deux principes qui n'ont pas besoin l'un de l'autre. Donc, créer de la cohérence. La cohérence, ça se compte, ça se tâte pas, ça se crée. Fabriquer des concepts qui induisent à une pensée, qui repère des lignes cohérentes. C'est au fond ce qu'il a fait dans Procès et réalité. Et pour moi, ça a été avant tout une espèce d'exercice de devenir philosophe. C'est comme si ces propositions conceptuelles mettaient la pensée au travail sur un mode qui effectivement font exister cette possibilité de penser de manière cohérente, c'est-à-dire de voir que si on dit s'il y a contradiction, ou bien vous êtes scientifique, ou bien vous ne l'êtes pas, ou bien ceci, ou bien cela, la question est mal posée. Il y a moyen de reposer la question autrement, de faire ressortir d'autres choses différemment, et de créer un contraste là où une opposition semblait indépassable.
Donc la philosophie est affaire de cohérence, c'est une recherche de cohérence?
Pour lui, pour lui.
Et pour vous?
Disons que je l'ai pris comme exercice de pensée.
De discipline, vraiment. Vous disiez d'ailleurs.
Oui, parce que c'est très utile d'avoir d'abord écarté toutes les oppositions avant de commencer à se mettre au travail avec les problèmes qu'on veut poser. Mes problèmes ne sont pas foncièrement métaphysiques, mais voilà, Whitehead m'a appris à penser sur un certain mode qu'on pourrait dire constructiviste, c'est-à-dire de ne pas accepter pour poser un problème ni une norme, voilà comment il faut le poser, ni une relativité quelconque. Non, non, de chercher dans le problème ce qui va le rendre intéressant, ce qui va l'ouvrir au lieu de le refermer. Et c'est quelque chose que j'ai appliqué, par exemple, avec la notion de pratique scientifique. Dans les années 90, des sociologues des sciences ont dit « les sciences ne sont que, il y avait bien ça dedans, une pratique comme une autre, une pratique humaine comme une autre ». Les scientifiques sont partis en bagarre, vous nous insultez, et le fil que j'ai pris c'est « attention, pensons les pratiques, aucune pratique n'est comme une autre ». Donc la question est plutôt de singulariser les pratiques scientifiques et pas de triomphalement déclarer qu'elles ne sont que ou qu'elles ne sont surtout pas une pratique humaine comme une autre. Donc réussir.
Mais pourquoi ça aurait été un problème de toute façon de dire que la pratique scientifique était une pratique comme une autre?
Parce que du point de vue de ceux qui le disaient, comme des scientifiques d'ailleurs, ça voulait dire démystifier. Ça voulait dire, quand les scientifiques se mettent d'accord, eh bien, c'est comme des humains qui se mettent d'accord. C'est selon les intérêts du moment ou les rapports de force du moment. Or, les scientifiques tiennent, surtout les expérimentateurs, à dire, non, si nous nous mettons d'accord, c'est parce que ce que nous avons interrogé nous impose cet accord. C'est pas nous qui l'avons fabriqué.
Il y a une nécessité qui les dépasse.
Mais il suffisait de dire, eh bien oui, cette pratique, c'est justement celle qui donne avant tout de la valeur à créer des situations telles qu'on puisse se retrouver forcé à être mis d'accord par la nature. La nature ne met pas naturellement d'accord. C'est toute l'inventivité de ces pratiques que d'inventer des questions et des situations expérimentales où ils donnent à ce qu'ils interrogent ce pouvoir.
C'est ça qui vous intéresse, voilà, je crois, en philosophie. Enfin, c'est les modalités pratiques dans lesquelles s'inscrivent les conditions de recherche de la vérité, oui, ou autre.
Et de dire non, ce n'est pas un triomphe de la raison, c'est une réussite pratique. On ne réussit pas toujours. Les scientifiques peuvent danser dans les laboratoires quand ils savent qu'ils ont réussi, qu'ils vont pouvoir convaincre leurs collègues, publier, etc. C'est pas du tout une espèce de théorie de la connaissance qui s'empare et qui conquiert de manière monotone un monde disponible.
Mais ça, on le trouve aussi en philosophie. Est-ce que vous êtes aussi dur avec les philosophes que vous l'êtes avec les scientifiques?
Ouais. Disons que chaque philosophe a son idée de la philosophie, et on ne s'attend pas d'accord entre philosophes à ce sujet-là. Les philosophes, si on peut dire, sont professionnellement en désaccord quant à ce qu'est la philosophie. Donc, aller dire « j'ai une bonne idée sur la philosophie », si on la présentait comme ça, tous mes collègues vont dire « avec quoi tu viens ?» Donc,
Mais c'est vrai ça d'ailleurs, c'est perturbant de savoir que personne ne s'accorde sur la définition de la philosophie.
Non, pas du tout, à mon avis, justement parce que c'est une aventure. Et c'est pas pour rien qu'il y a « aimer » dans « philosophie ». On peut dire des tas de choses.
Philo,
cette
étymologie,
l'amour de la sagesse, si on veut. Mais en tout cas, chaque type d'amour a son style. Moi, j'ai appris à aimer la philosophie avec Whitehead, Deleuze, et après Leibniz, et puis William James. Je peux dire le fil d'amour qui, pour moi, les unit. Par contre, je ne sais pas dans quelle autre vie je pourrais aimer Kant. Il y a des paroles de Kant qui me répugnent, mais intellectuellement et affectivement. Donc il y a un rapport affectif, mais pas simplement sentimental, mais affectif au sens où comment est-on affecté par la philosophie, c'est aussi l'art de goûter. Est-ce que ça me fait penser ou est-ce que ça m'anesthésie? Donc tout ça, c'est quelque chose. Donc je crois que c'est un art de la pensée. Et c'est une pratique, mais ce n'est pas quelque chose qui rêve à créer un progrès. Un progrès au sens où les sciences sont liées à un progrès. Nous ignorions, maintenant nous savons. Je ne peux pas dire ça. On peut dire à chaque époque, et avec ce qu'on a appris à penser du passé, des autres et des philosophes, et des autres pensées qui nous entourent, on fait de son mieux pour créer de la pensée.
La philosophie ne fait pas de progrès.
C'est plutôt un artisanat. Donc, on peut dire qu'il y a des grands philosophes, mais on peut parler de chefs-d'œuvre à leur sujet, dont on apprend. On apprend le tour de main, on apprend à prolonger ce qui peut être prolongé, etc. Mais on peut pas dire... Enfin, je parle en tant que philosophe, c'est-à-dire en désaccord avec beaucoup de philosophes. Depuis Kant, nous savons que... Depuis Kant, nous pouvons dire qu'il n'y a pas de depuis. On peut pas
donc
dire.
Il n'y a même pas d'histoire de la philosophie pour vous. Ça n'a pas de sens.
Deleuze parlait d'un devenir de la philosophie. D'un devenir de la philosophie. Oui, les questions deviennent. Mais elles n'ont pas une histoire au sens, oui, il y a des avant et des après. Mais il n'y a pas d'histoire au sens où on pourrait donner une raison à cette histoire. Vous donner un sens à cette histoire. Non, il y a des devenirs qu'il caractérisait même en termes de géologie, comme des strates. Il y a une strate kantienne.
Mais donc, oui, mais par exemple, puisque vous parlez de Deleuze, on peut dire que la philosophie de Deleuze ne serait pas la même si celle de Platon n'avait pas existé.
Bien sûr.
Les philosophes se répondent et construisent quelque chose à partir de ce qui a déjà été écrit.
Bien sûr.
On ne recommence pas à zéro à chaque fois. Oui, c'est la différence avec l'artisanat quand même.
Oui, mais en ce qui me concerne, en tout cas, celui... Je ne lirai jamais celui qui dirait « je vais répondre à Platon sur un mot qui constituera un progrès que chacun devrait reconnaître par rapport à Platon ». Non, non. Platon, je suis héritière de Platon parce que il m'a donné la force et les idées de traiter tel problème ainsi.
C'est de l'inspiration aussi, alors.
C'est l'inspiration et c'est l'apprentissage. Deleuze disait que les concepts, il les considérait comme des outils, la pensée s'outille. Et moi, j'ai un certain type d'outillage et ce sera certainement pas les outils de Kant.
On l'aura bien compris. Vous nous expliquerez pourquoi après. Parmi vos outils, alors on a parlé de la science et de la philosophie, on trouve aussi, contre toute attente, l'hypnose.
La non-connaissance de l'hypnose est une non-connaissance de toutes les psychothérapies. C'est-à-dire, il y a une dimension hypnotique qui, dans l'hypnose, se voit presque caricaturalement, de manière macroscopique, mais à minima, ça existe partout. Et c'est pourquoi il n'y a pas aujourd'hui de psychothérapie scientifique, parce qu'il y a une dimension hypnotique, entre guillemets,
oui,
qui nous manque. Et c'est embêtant.
Aie confiance, oui, crois en moi, que je puisse.
Chemin de la philosophie, Adèle Van Rett.
Séance d'hypnose ce matin en compagnie de la philosophe Isabelle Stengers. Qui est la voix que nous venons d'entendre avant le livre de la jungle? Vous l'avez reconnue?
Ben, c'est Léon Gertoc, évidemment. C'était un psychiatre spécialiste de l'hypnose et dans une France qui, à l'époque, pensait que hypnotiser, c'était faire abus de pouvoir.
C'est le début des années 80?
Disons que lui, il avait commencé à vraiment devenir un défenseur de l'hypnose au début des années 80. Moi, je l'ai rencontré plutôt à la fin des années 80. Et il m'a posé une bonne question. S'il m'avait dit « intéressez-vous à l'hypnose », j'aurais dit « j'ai un peu lu ça dans Alexandre Dumas, mais enfin, pourquoi ?» Mais il m'a dit « comment se fait-il que l'hypnose ait été... parfois reconnue comme la pratique qui allait faire de la psychologie une vraie science, et puis retomber dans l'enfer des illusions et de ce qu'il fallait surtout pas pratiquer. Et je me suis rendu compte qu'entre l'hypnose et le titre de science, il y avait toute une histoire qui montrait, encore une fois, les mauvais tours que joue à une science comme la psychologie, le modèle de l'explication scientifique qui a fait succès en physique. Donc, je me suis intéressée à l'histoire de l'hypnose avec lui en cherchant justement en quoi l'hypnose ne pouvait que décevoir ceux qui voulaient faire science en ce sens-là, avec l'hypnose. C'est quelque chose que j'ai après continué avec Toby Nathan, après la mort de Chertok et l'ethnopsychiatrie. Mais donc, on a écrit, c'était un véritable récalcitrant. C'est-à-dire, pour lui, ce qu'il avait vécu, observé, étudié dans cette pratique hypnotique, on pouvait dire ce qu'on voulait, c'était important. Comment ça se faisait qu'on puisse refuser, comme si c'était un objet maudit, de s'y intéresser?
Est-ce que ça veut dire que vous prenez position pour l'ethnopsychiatrie contre la psychanalyse?
Disons que l'une des nombreuses raisons que j'ai eues de travailler avec Chertok, c'était de dégoûter les psychanalystes de s'intéresser à moi.
Ce qui serait un cas très intéressant pour eux d'ailleurs, la manière que vous avez de le formuler.
Je suis devenue un mauvais objet pour eux.
Qu'est-ce que vous reprochez à la psychanalyse?
Il y a beaucoup de psychanalyse. On peut dire que moi, je ne sais plus très bien ce que c'est la psychanalyse, mais à mon époque, c'était évidemment Lacan. C'était évidemment Lacan et puis Freud, etc. Et effectivement, j'ai titré d'ailleurs un des livres « La volonté de faire science ». Ou bien, chez Lacan, « La volonté d'être en dehors des sciences, mais de transcender les sciences plus que la philosophie n'a jamais rêvé de le faire ». Donc, ce qui m'a intéressé, c'est que, et ça, c'est ce que j'ai appris avec l'hypnose, mais aussi après avec Toby Nathan, c'est que l'idée de métamorphose, l'idée de transformer la manière dont quelqu'un vit ses problèmes, vit son monde, vit avec soi-même et les autres, c'était un art par rapport auquel nous avions, somme toute, très peu progressé, et justement, nous autres, en modernité, justement parce que nous demandions de le faire de manière rationnellement bénie. donc, que ce soit reconnu comme rationnel, contre les faiseurs de miracles et tout ça. Or, qu'est-ce que la raison vient faire là-dedans? Qu'est-ce que la raison... encore une fois, j'ai dit, pour moi, la raison est une aventure. Se porter à la hauteur du problème qui vous est posé et qu'on a accepté d'affronter.
Mais ce n'est pas incompatible avec la psychanalyse, d'ailleurs, l'aventure.
Sauf que, disons que je n'ai pas envie de trop parler de psychanalyse, mais il y a une peur, finalement, d'être pris comme ayant suggéré, d'une peur qu'on puisse vous traiter de faiseur de miracles, une peur. Les psychanalystes, c'est ça qui m'impressionnait. Pour moi, un guérisseur ne doit pas avoir peur. Or, chez les psychanalystes, je voyais, chez, pas tous, hein, mais en tout cas ceux qui s'intéressaient à moi, qui voulaient me demander des recettes pour devenir plus rationnel ou Dieu sait quoi, c'était cette peur de retomber dans ce qu'il considérait comme du n'importe quoi, c'est-à-dire de faiseur de miracles ou de magicien ou de suggestionneur. Et ça c'est la pire dimension de ce qu'on appelle rationalité, quand elle se traduit par une peur de l'irrationalité. Non, l'irrationalité n'a pas de quoi avoir. D'abord, ça ne veut rien dire. Et puis, secondo, si on doit avoir peur de ça, c'est encore une fois en mutilant un problème.
Et donc, l'ethnopsychiatrie aussi pour aller dans le sens d'une transformation, c'est ce que vous disiez. C'est votre goût pour la transformation.
Pour moi, c'est un art des métamorphoses, oui.
Et vous aimeriez vous transformer en sorcière ?
Il y a des moments, disons que les métamorphoses, ce que certains appellent trans, je les connais dans mon métier d'écriture. Il y a des moments où j'y suis pour personne, il y a des moments où le texte exige de moi des choses, etc. Donc je le connais à ma manière, et je sais que ce n'est qu'une forme de trans qui fait mon métier, pas ma profession, plutôt mon métier, c'est plutôt un métier. Mais ça, c'est peut-être que ce à quoi vous faites allusion. Oui, je m'intéresse aussi à certaines pratiques, notamment celles de Starhawk et des sorcières néo-païennes, qui tentent de mettre en place, d'expérimenter avec des rites qui leur donnent la force et la volonté et l'imagination de lutter contre le monde tel qu'il va. Oui.
Et c'est pourquoi, si on s'approche de votre cœur et de votre oreille, on découvre Anne Sylvestre, une sorcière comme les autres.
S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille. S'il vous plaît, faites-vous léger, moi je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous émancelez mon cœur quand vous jouiez à la guerre. Gardais la maison, j'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie, c'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vague ou de ruisseau. Et c'est mon cœur ou bien le leur, et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière. comme les autres. Il vous faut.
Qu'est-ce qui vous plaît tant dans cette chanson, Isabelle Stengers?
C'est évidemment pas la figure de la sorcière expérimentale. D'ailleurs, je n'ai connu ces sorcières expérimentales que bien plus tard. C'est l'appartenance à un peuple des femmes. On parle beaucoup de sororité. Je suis pas sûre que les femmes soient sœurs. Comment dirais-je de manière générale, mais l'idée que nous partageons, qu'on soit mère ou non. Et si elle chante les mères, mais elle n'est pas mère. Mais que nous partageons un certain type d'expérience qui n'existe que quand on en parle ensemble, ça a été une des grandes forces du féminisme. Et je crois que du féminisme du début des années 70. Et je crois que Anne Sylvestre a chanté cette époque-là, cette découverte de cette connivence au fond des femmes qui peuvent comprendre sans trop d'explications ce qu'en vit une autre, et surtout sans poser les mauvaises questions, sans s'attarder à des interprétations. Il y a une espèce de... Bon, je parle des femmes occidentales, évidemment, je ne suis pas sûre que j'aurai une connivence avec d'autres qui n'ont pas le même passé, y compris sa chanson, n'aurait pas cette... Mais cette chanson éveille quelque chose qui n'est pas de l'imaginaire, qui est un fond d'expérience, je crois, qui est important et qui nourrit le féminisme.
Monuments aux morts, celles qui dansent et qui en meurent, filles bitumes ou filles fleurs, et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres.
Ça veut dire que toutes les femmes sont des sorcières ou pas forcément?
Elles pourraient.
Mais alors comment vous définissez la sorcière dans ce cas?
Starhawk dit que... indépendamment de celles qui ont des pratiques sorcières, eh bien, on se fera traiter de sorcière souvent si on semble manier ou prétendre, mais surtout manier un type de pouvoir qui inquiète les hommes.
La sorcière, c'est celle qui inquiète.
La sorcière, c'est un certain type de pouvoir, certainement pas le type de pouvoir de la force, mais un type de pouvoir, oui, je crois. Et ça peut être un pouvoir qu'on dirait irrationnel, par exemple. Mais c'est pas un pouvoir dont on se vante. C'est un pouvoir que l'on peut constater, je trouve, surtout au désarroi où il peut. Donc il y a un certain type de désarroi où on se dit tiens, j'aurais pas cru que ce que j'avais dit était si fort, et pourtant. On me regarde comme si je faisais quelque chose qui devait pas l'être. Et parfois en créant des concepts, par exemple.
C'est ce que j'allais vous demander. Quand vous travaillez, quand vous écrivez, quand vous fabriquez des concepts, est-ce que c'est la même sensation de l'expression d'un pouvoir, peut-être malgré vous, dont vous mesurez bien l'impact sur les autres personnes?
Oui, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je dirais jamais c'est mon pouvoir.
Ah oui.
Une sorcière va jamais s'attribuer le pouvoir. C'est un art de pouvoir. Mais le pouvoir ne vient pas de soi. Ce qui vient, c'est le savoir faire des choses avec un pouvoir. Quand j'écris, c'est pas que je me sente au pouvoir, ni comme ayant du pouvoir, mais je sens que les mots ont du pouvoir qu'il faut, traiter avec à la fois précaution et courage. Que les mots peuvent fabriquer des événements, et que ces événements peuvent, forcer à penser des gens, et soi-même d'ailleurs, là où ils n'auraient jamais penser être susceptible d'aller.
C'est un plaisir d'écrire?
C'est quelque part une oui, il y a de la joie, mais c'est une joie qui
n'est pas très convaincante.
Oui, mais il faut la gagner, quoi, parce que ça peut être très laborieux. On peut tourner autour d'une phrase, sentir que cette phrase, que cette idée doit trouver les mots qu'il lui faut et on les sent qui échappent. Donc c'est quelque chose c'est pas un travail au sens triste du terme, mais ça a quelque chose d'un accouchement.
Par la douleur que ça
a... Ben, par la douleur et aussi, mais aussi par la joie quand on se dit, là je crois que si je le dis comme ça, ça passe.
Donc, et vos livres sont vos enfants?
Non, parce qu'un enfant...
Ça en
enfant,
fait beaucoup.
Enfin, je crois qu'un enfant, c'est pour la vie, tandis que quand un livre est fait, on peut passer au suivant. Donc, c'est une drôle de mère qui dit, hop, c'est sorti, au suivant. Non, quand je dis l'accouchement, c'est justement que c'est quelque chose, c'est des torsions de la pensée. Deleuze a dit ça quelque part, que la pensée fait du penseur une espèce de larve qui crée des mouvements qu'on peut pas supporter si on se veut bien constitué, quoi, des mouvements de torsion. Et c'est vrai que écrire quand ça compte, quand on n'écrit pas ce qu'on sait déjà, c'est faire des mouvements de torsion jusqu'à ce que on trouve la manière dont ça demande à être dit, en tout cas tel qu'on peut le penser.
Est-ce que vous avez une responsabilité particulière en tant que philosophe quand vous écrivez, quand vous enseignez, quand vous discutez avec vos collègues? Est-ce qu'il y a un rôle politique à jouer en tant que philosophe?
Disons que, et surtout avec mes étudiants, mais aussi quand j'écris un livre ou quand je m'adresse à des gens qui sont dans une opération de lutte, ma responsabilité, c'est surtout pas de leur dire quoi faire, mais c'est de sentir peut-être que ici, en parlant comme ça, en posant les questions comme ça, je peux leur apporter quelque chose. Et ça, c'est mon devoir. Si je peux le faire, je dois le faire. Et quand ça réussit, enfin, si ça réussit, souvent, des gens me disent oui. Je leur ai parlé en général de choses qui sont pas réjouissantes sur la dévastation des mondes, etc. Mais je leur en parle sur un mode tel que ils ne se sentent pas désespérés, mais au contraire renforcés.
Oui, mais est-ce que ça veut dire que votre engagement se tient dans les limites de l'exercice de votre métier, ou est-ce que vous pourriez signer des tribunes, vous engager politiquement?
On dirait comme citoyenne.
Voilà, d'accord, vous distinguez les deux.
Je fais comme citoyenne.
On ne peut pas devenir la Greta Thunberg de la philosophie.
Mais Greta Thunberg, elle parle, elle ne fait pas que signer.
Ah non, justement.
Je veux dire,
Est-ce que ce serait envisageable dans le domaine de la philosophie, c'est ça que je veux dire?
Mais plutôt, je dirais plutôt le contraire. Auparavant, souvent, j'essayais de parler à mes collègues face au désastre climatique et tout ça, de la honte qu'il y a à ne pas s'adresser, comment dirais-je, aux étudiants en tant qu'ils sont en recherche éventuellement de quoi faire à cette époque. Donc de continuer la routine. Donc je leur parle de cette honte qu'on a de ne pas se laisser changer par ce qui arrive quand on est prof.
Honte.
Honte, oui, mais les paroles de Greta Thunberg, vous n'avez pas honte.
How dare you?
How dare you? Comment osez-vous? Ben, je les cite parce que maintenant elle le dit mieux que moi. Et en plus, celle qui le dit, comment dirais-je, de tout son être. Alors que moi, je suis un prof qui parle à d'autres profs. Elle sait. Donc, oui, Greta Thunberg, pour moi, c'est quelqu'un, non, j'ai rien à lui apprendre, mais je peux répercuter ce qu'elle a dit. Et, comment dirais-je, répercuter sur un mode où j'essaye non pas d'ajouter, il n'y a rien à ajouter, mais de prolonger, de continuer.
Ouais. Mais il y a bien des choses dont vous êtes à l'initiative, là. Vous ne faites pas que prolonger ce que d'autres impulsent.
On prolonge toujours. On prolonge toujours. On n'est jamais à l'origine d'une idée.
Ah oui.
Non, on n'est jamais. Par exemple, je vous ai dit que la notion de pratique avait été très importante pour moi. Ben, elle l'a été, non pas parce que j'ai prolongé quelqu'un dans ce cas-là, mais parce que tout à coup, je me disais, mais c'est pas possible qu'on s'arrête à une pratique comme une autre ou une pratique pas comme les autres. C'est pas possible, c'est trop court. Donc, oui, on peut aussi prolonger en créant parce que on se dit c'est trop court ici.
C'est trop court comme cette émission, Isabelle Stenger. Elle a déjà terminé. Merci infiniment d'être venue nous parler à ce micro ce matin.
Merci.
On se quitte avec un chanteur belge. Excusez l'association d'idées, mais un chanteur belge, j'ai pas n'importe lequel. Dick Annegarn, vous le connaissez sans doute. L'univers 1974.
Je viens de loin. Citoyen qui est de ce monde, le fils de terre et fille qui les féconde, la terre n'est qu'un trou dans l'univers, hein. Ni de fourmis, un nid plein d'humains qui, je le crois et je vous avertis, est à sa fin, sur son déclin. Bientôt on sera plus qu'un raisin dans l'uni, 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 l'univers. Est beaucoup plus vaste que l'on croit connaître, que l'on croit pouvoir contenir dans nos sciences. L'univers est absolu, l'univers est absolu, unique, corpusculaire, immensément grand. Relatif est notre avenir, relatif à son désir, le désir du maître des êtres, qui peut-être va nous faire disparaître. Relatif est notre avenir, sa colère sera éphémère, le petit saut d'humeur et la terre ne sera plus que vapeur. Par Jupiter. Il se fâchera quand il s'apercevra qu'une petite sphère faite de terre et de mer va trop vite sur son orbite. Il nous fera disparaître. Il nous fera une pichenette. J'aurais déjà disparu, je m'éclipserai dès demain. Je m'en vais dès demain sur mon char. Je me barre, dardard, je vais loin dans la terre.
France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Ce matin, vous nous parlez de puissance.
Oui, ce terme est devenu un élément de langage, on l'entend à toutes les sauces. Un film, un café, une rencontre est puissante, mais notamment les femmes, depuis la parution du roman de Marie Ndiaye en 2009, « Trois femmes puissantes ». Qu'est-ce qui peut bien plaire dans ce terme et dans cette idée de puissance, connue en philosophie dès l'Antiquité sous la plume d'Aristote, comme capacité et pouvoir, que reste-t-il de son concept aujourd'hui ?
Je suis Léa Salamé et je vous propose une série d'été, une rencontre avec des femmes puissantes. Pourquoi femmes puissantes ? D'abord parce que ce sont deux mots qui sonnent bizarres à l'oreille. On dit des femmes qu'elles sont belles, douces, charmantes, délicieuses, parfois méchantes, parfois manipulatrices, mais on dit rarement des femmes qu'elles sont puissantes. Et bien cet été, je vous propose de rencontrer 9 femmes puissantes.
puissante, c'est le nouveau terme à la mode et pour ma part, je suis déjà à bout. Je suis pourtant, comme tout le monde, séduite par ce nom, sa sonorité et sa connotation. Ce que j'aime en lui, c'est qu'il est doux à prononcer, avec ses murmures de S, son joli puits et son anse final, ample et élancé, et qu'il désigne dans le même temps quelque chose de ferme et déterminé. C'est comme si la puissance cachait bien son jeu et en avait sous la pédale. C'est d'ailleurs l'idée que l'on a de la puissance dès l'Antiquité. Aristote, le premier à la théoriser, la définissait ainsi comme une capacité, c'est-à-dire comme une aptitude, une disposition à faire quelque chose, mais que l'on n'utilise pas forcément, que l'on ne réalise pas forcément. Une nuance qui a de quoi plaire, car on retrouve cette valeur à la fois adorée et détestée de nos jours, la force, mais pas donnée telle qu'elle. Au fond, la puissance serait une force qui ne dit pas son nom, qui avance masquée, qui sous une sonorité plus douce serait peut-être plus acceptable et irait alors peut-être mieux aux femmes. Eh bien, c'est la question que je me pose à force de l'entendre accoler aux femmes, justement. Pourquoi les femmes seraient-elles puissantes et ne seraient-elles pas autoritaires, fortes, pleines de pouvoir? Pourquoi ne seraient-elles que capables, disposées, aptes à agir et pas directement dans l'action, dans le mouvement, dans le pouvoir?
Vous voulez que vos logiciels travaillent plus vite? Alors ce qu'il vous faut, c'est une source de puissance haute performance au cœur de votre ordinateur. Compatible avec les logiciels les plus utilisés aujourd'hui et avec assez de répondants pour les logiciels les plus exigeants de demain. Cette source de puissance, c'est le microprocesseur Intel 486 DX2. Alors, chaque fois que vous achetez un ordinateur, exigez Intel Inside.
Dans les années 90, la puissance était plutôt rattachée aux machines, à des calculs, aux objets techniques, au corps biologique ou dans un sens politique, aux puissants. Ces riches qui dirigent le monde. C'est d'ailleurs comme cela que le terme ressort d'abord dans les dictionnaires. C'est la force physique d'un muscle, c'est l'énergie mécanique ou électrique, c'est la multiplication d'un nombre ou la richesse de certains. Aristote, encore lui, avait bien aussi déployé tous les sens de la puissance, de la politique à la physique. Mais c'est à propos du mouvement qu'il en parle le plus. Pour lui, la puissance est le principe du mouvement, ce qui permet à un être de bouger, de changer, de se transformer. Un être ne fait pas que bouger, agir ou changer, il n'est pas seulement en acte, nous dit Aristote, il est aussi en puissance. Je trouve donc que c'est à la fois un concept très beau, la puissance, ce qui rend compte de notre formidable aptitude intérieure à nous métamorphoser et à accomplir des choses, mais c'est aussi un concept que je dirais en creux, souterrain, dans l'ombre, d'où mon étonnement aujourd'hui. Je trouve ça vraiment fou de l'utiliser aujourd'hui pour tout et pour les femmes en particulier. Car oui, paradoxalement, quand on dit que les femmes sont puissantes, on veut dire qu'elles ont du pouvoir et pas de la force mécanique, de la domination des riches, et encore moins dire qu'elles sont dans l'ombre, intime, invisible. Au-delà donc de l'usure mentale à entendre ce terme à tort et à travers, comment en est-on venu à utiliser cette expression dans un sens inverse à l'intention?
Trop puissant, comme Okawano en 2,5, toujours 3 coups d'avance sur l'ennemi, 113. Trop puissant, découpille la grenade, fait trembler la province, les boîtes parisiennes, les boîtes séquentielles. Trop puissant, délinquant artiste, braque le rap, c'est revenu, laissez passer les galactiques. Trop puissant, vitrine, astritomita, inimitable.
Voilà donc mon agacement sous forme de question. Le recours à la puissance, plus doux, plus acceptable, révélerait-il l'impossibilité que l'on a à penser la force brute des femmes fortes, tout simplement, ou ce terme de force ou d'autorité, de pouvoir aurait-il trop été associé aux hommes, ce qui nous obligerait ainsi à penser à un autre qualificatif pour les femmes? Eh bien, je crois en fait que par souci cosmétique, parce que la puissance, c'est plus joli, c'est plus évocateur, par prudence aussi, parce qu'on s'effarouche de la force telle qu'elle, eh bien on en vient à dire le contraire de ce que l'on veut et à ne plus appeler un chat un chat.
Merci Géraldine pour votre chronique qui est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Manon de la Selle, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Thomas Beau et Nicolas Berger réalisent pour vous cette émission chaque semaine. À la prise de son aujourd'hui, c'était Anthony Thomasson. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle série d'émissions autour du soleil. On parlera de Van Gogh, de Camus, du bronzage et du livre de Boris Cyrulnik. Ce sera lundi prochain, on passera la semaine sous le soleil, en plein confinement. Voilà de quoi vous réjouir. D'ici là, si vous souhaitez réécouter l'émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe des Chemins vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. On attend vos remarques et vos commentaires. À lundi, 10h, sous le soleil exactement. D'ici là, restez chez vous, à l'écoute sur France Culture.